voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Les images sont révoltantes. Un drone à 50 mètres d'altitude survole le village de Sacré-Bojo à 1 km de la frontière sénégalaise. Des milliers de troncs de bois de veine sont alignés, prêts à être chargés direction Banjul, la capitale gambienne, où ils seront revendus à des opérateurs chinois. Ces images ont été filmées par l'écologiste et ancien ministre de l'Environnement sénégalais, Haïdar El Ali, qui prend le risque de dénoncer ce trafic depuis quelques jours. Bonjour Laurence Caramel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde Afrique, vous êtes allée vous aussi dans le département du Médina Yorofoula en Casamance, avec Haïdar El Ali. Vous avez pu constater sur place ce carnage.
Oui, j'étais avec Haïdar début février. On était côté Casamance, dans le lieu qui est filmé par le drone, et on a pu assister effectivement à ce trafic intense de bois de veine entre la Casamance et la Gambie.
Alors Haïdar El Ali a fait une conférence de presse à Dakar il y a quelques jours pour dénoncer ce trafic. Est-ce que selon vous, il prend des risques ?
Bien sûr qu'il prend des risques, parce que dès que l'on s'attaque à un trafic, on dénonce la corruption qui est souvent derrière. Et là, c'est exactement le cas au Sénégal. Ce trafic de bois de veine, tout le monde est au courant. Le gouvernement n'agit pas. Il aurait certainement les moyens de le faire. Et Haïdar est un homme qui va à l'avant et qui est un homme seul dans ce combat. Donc bien sûr, oui, il prend des risques.
Alors nous allons revenir ensemble après l'interview d'Haïdar El Ali sur les conséquences en Afrique de l'Ouest de ce trafic. Parce que faire disparaître la forêt, c'est laisser le désert prendre sa place. Mais nous allons tout d'abord écouter Haïdar El Ali, que Guillaume Thibault a rencontré la semaine dernière à l'occasion de cette conférence de presse. Ils se sont installés dans un petit coin de l'Institut Goethe.
Haïdar El Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maintenant le plus souvent en Casamance, c'est maintenant votre base. Vous êtes venu à Dakar pour lancer un cri d'alarme, pour lancer une alerte.
En réalité, je vis en Casamance surtout parce que Dakar est une ville très polluée. J'ai des enfants qui sont asthmatiques, qui ne supportaient pas 140 microgrammes de CO2 dans les poumons quotidiennement. Donc je suis allé me réfugier en Casamance, région naturelle où il y a encore quelques refuges qui, hélas, sont extrêmement agressés. Et bon, je suis venu aussi profiter de ma présence à Dakar pour dénoncer le fait que là-bas, dans le Médina Yorofoula, qui est une partie de la Casamance, il y a vraiment, vraiment de l'abus dans le pillage des ressources.
C'est une zone qui est frontalière avec la Gambie. Et concrètement, ce qui se passe en ce moment, et c'est un phénomène, un trafic qui est en augmentation, c'est un trafic de bois noble.
Alors, le trafic est porté essentiellement sur le bois de veine. Le bois de veine rouge, qui est une essence extrêmement recherchée en Chine, où la classe moyenne grandissante est en train d'augmenter et où cette demande, la demande en meubles de ce produit, est en train d'augmenter. C'est un bois qui coûte très cher là-bas. Donc le mètre cube, le prix officiel, c'est $700. Nous, on nous achète le tronc trafiqué, puisque la loi au Sénégal est claire. L'exportation de bois de veine est interdite. Quand on autorise la coupe d'un bois, c'est un bois mort sur pied. En Gambie, la loi aussi est claire. Elle dit qu'on peut exploiter sur autorisation. Et il y a une société, Westwood, qui a l'autorisation d'exporter le bois de veine et qui prend $3000 par conteneur. Donc c'est un bois précieux. C'est un bois, hélas, qui est en train de disparaître. Et c'est un bois qui sert à la menuiserie chère des nouveaux riches chinois.
Vous avez mené une enquête très précise. Vous êtes basé notamment sur des documents universitaires d'universités américaines. Vous avez vous-même filmé certaines zones. Le premier constat que vous faites, c'est qu'en 5 ans, cette forêt qui fait 40 000 hectares a perdu 10 000 hectares à peu près de superficie.
Alors l'université américaine effectivement a constaté qu'entre 2010 et 2015, on a perdu 25% des 40 000 hectares. Donc 10 000 hectares sont partis du fait du trafic de bois. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a une très forte augmentation de ce pillage, puisque on constate qu'il y a des retours d'immigrés qui veulent profiter aussi de cette manne. Ce trafic, il est en train d'augmenter, et ce qui nous inquiète, c'est qu'il prend une telle ampleur que dans 2 ans, on va encore atteindre les 10 000 hectares. Cela fera 20 000 hectares sur les 40 000 qui nous restent, et cela fera que nous aurons atteint les 50% de la forêt qui seront complètement partis, hélas, et qui fera que nous aurons atteint un seuil de non-retour pour la régénération de cette partie de la Casamance. Cela veut dire que le désert sera inéluctablement installé là. Et c'est ça qui est alarmant, parce que qui dit forêt dit ressources pour la terre, qui dit forêt dit ressources pour le bétail, cueillette des fruits, exploitation de la ressource, qui dit forêt dit pluie. Donc c'est tout cela que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre notre forêt, avec lui notre pluie, le dérèglement, le réchauffement climatique. C'est tout cela que je dénonce. Et en plus, malheureusement, ça profite à une mafia chinoise, ça profite à une mafia d'exploitants gambiens et ça profite à une mafia d'exploitants sénégalais. Ça ne profite ni au peuple sénégalais, ni au peuple gambien, ni au gouvernement sénégalais, et je ne sais pas, au gouvernement gambien, parce qu'il semblerait que cette société Westwood ait des acquaintances très proches du pouvoir gambien.
Et il y a un phénomène qui est inquiétant, vous l'abordez, des gens qui sont partis travailler, qui sont partis vivre en Europe ces dernières années, reviennent tellement ce business est rentable, alors que les trafiquants achètent ce bois à un coût, j'ai envie de dire, ridicule par rapport à sa valeur. Mais il y a un phénomène fort depuis quelques années, c'est-à-dire que du côté sénégalais, des villages entiers se sont mis au travail, l'exportation est permanente, continue quasiment 24-24.
Oui, le constat, il est clair. Il est clair parce que les Sénégalais, ils disent que « mais nous voyons les Gambiens couper notre forêt, il n'y a pas de réaction du gouvernement. Alors pourquoi laisser les Gambiens venir piller notre forêt? Nous allons le piller nous-mêmes. » On était à 50-100 trafiquants qui sillonnaient dans la zone. Maintenant, on est à 1000, 2000 trafiquants qui sillonnent dans cette zone. Mais il faut savoir de quoi on parle. La Chine importe depuis 2010 de l'Ouest africain énormément de bois de veine. Le Nigeria est le premier pays exportateur avec 200 000 mètres cubes par année. Et le deuxième pays exportateur, c'est la Gambie avec près de 60 000 mètres cubes par an.
Et ce sont des chiffres officiels.
Des chiffres officiels de la douane chinoise. Les universités américaines qui surveillent par satellite l'étendue et la dégradation, hélas, des forêts, disent bien qu'au Sénégal, sur cette partie frontalière avec la Gambie, il nous reste 40 000 hectares. Mais ils disent aussi bien qu'en Gambie, pays sahélien, il n'y a que 4 000 hectares de forêts disponibles. Donc tout ce bois exporté par les Gambiens, deuxième pays exportateur de bois de veine de l'Afrique, vient du Sénégal. Et tout le monde le sait. Les autorités sénégalaises le savent, les autorités gambiennes le savent, mais tout le monde en profite. L'importation du bois de veine africain vers la Chine représente 140 milliards de francs CFA. 140 milliards de francs CFA chaque année. Et rien que la société Westwood, qui prend 3000 euros par conteneur, se fait une manne financière extrêmement importante. Alors vous voyez bien que cette mafia n'est pas prête d'abandonner face à des chiffres pareils. Quand vous trafiquez la cocaïne, si on vous attrape, vous faites des années de prison. Quand on vous attrape à couper du bois de veine, vous payez une amende ridicule. D'ailleurs, le mètre cube de bois de veine, il est vendu à 700 dollars, c'est le cours international. Et le tronc, il est acheté à 10, 15 000 francs aux populations de Medina Yorofula. 15 000 francs CFA. Cela veut dire que pour deux troncs, vous avez un mètre cube. Et le mètre cube, vous le vendez à 20 000 francs CFA, ça fait 30 euros. Alors qu'il coûte 700 euros. Donc, on installe le désert tranquillement chez moi, on dérègle la pluie, l'agriculture, l'élevage, la cueillette, la forêt, les pluies, on installe le désert et tout ça pour des pacotilles, parce qu'en plus, quand ils vendent cela, ils reviennent avec des motos chinoises qui tombent en panne au bout d'un an, ils reviennent avec de la pacotille de merde chinoise qui ne dure pas, mais ça suffit quoi.
Questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Get the light.
Charlot, dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons du pillage des forêts de Casamance avec la complicité de la Gambie, un trafic dénoncé par l'écologiste Haïdar El Ali, interrogé par Guillaume Thibault.
On peut s'arrêter un instant sur cette société gambienne, Westwood, qui d'après vous a des liens directs avec le pouvoir gambien. Quand on va sur le site internet de cette société, elle se revendique à défendre l'écologie, à défendre la nature, etc. C'est aussi cette société qui, au final, a le droit de donner le tampon pour que ce bois soit exporté.
Alors, on va parler de ce tampon que la société Westwood a le droit, parce que c'est la seule société qui a le droit d'exporter le bois et qui permet de délivrer un quitus qui dit que ce bois est d'origine gambienne. Cela permet aux sociétés internationales aussi qui transportent les conteneurs de transporter ce bois. C'est du greenwashing partout. Donc on blanchit le trafic des mafieux chinois et des trafiquants de bois gambiens et sénégalais, on le blanchit en donnant de vrais faux papiers. Parce que c'est des faux papiers. Et ça permet aux compagnies CCBM, Bolloré, de transporter ces conteneurs de bois de veine qui ont une origine soi-disant gambienne et qui proviennent tous de la forêt sénégalaise. En fait, c'est comme si on vivait un théâtre où tout le monde fait semblant et tout le monde profite du système. Mais tout le monde, hein, tout le monde. Ce tampon-là, il n'est pas seulement Westwood, mais il est aussi compagnies internationales qui passent leur temps à nous vendre un monde merveilleux alors qu'ils ne s'occupent que de leur quotidien. Il concerne aussi des mafieux qui sont installés dans les plus hautes sphères parce que j'estime, dans la mesure où l'État sénégalais ne fait rien, qu'il est complice, c'est un complice passif, parce que je ne peux pas permettre qu'on installe le désert dans mon pays, j'estime que l'État gambien, dans lequel la société Westwood existe, est un État complice, et toute cette complicité permet ce trafic. Cela veut dire que ça doit profiter à des grosses pontes qui sont là-haut, sinon ce ne serait pas possible.
Et comble du comble, cette société Westwood se revendique défenseuse des droits, de l'environnement, voilà.
Oui, je suis allé dans leur site voir qu'ils font beaucoup de social, ils font beaucoup de reforestation, ils font beaucoup d'environnement, mais c'est l'éternel blabla. Vous savez, il y a des sociétés pétrolières, quand vous allez dans leur site, vous avez l'impression que c'est un parc zoologique, c'est n'importe quoi. Et c'est risible à la limite parce qu'on sort de la COP21 et on est rentré dans la COP22. On coupe, je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, vous coupez. Personne ne plante.
Il existe en Casamance, vous en avez monté, vous, des groupes qui sont un peu justement chargés de vérifier qui fait quoi dans les villages. Alors ce sont des individus puisque l'État est quasiment absent de toutes ces zones. Et ces groupes qui protègent leur environnement, même eux aujourd'hui sont menacés par leur propre famille, par leur propre village et ne peuvent plus faire ce travail.
Oui, hélas, il y a des gens qui sont morts. Il y a un chef de village récemment, il y a moins de 6 mois, qui est décédé parce qu'il défendait sa ressource. Il y a plus dramatique que 4 jeunes qui sont dans les prisons de Kolda, parce que ces jeunes qui étaient des agents de proximité, et nous avons mené une enquête aussi bien avec eux dans la prison que dans leur village, hein, pour confirmer tout ce que nous disons. Ces jeunes ont été embrigadés dans une surveillance par un agent des eaux et forêts qui leur a dit « Vous surveillez avec nous la zone et puis vous nous amenez les braconniers. » Ils en ont amené des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ils ont fait payer des amendes à coût de 500 000, 1 million que l'agent encaissait. Et une fois que les populations en ont eu marre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont tendu un guet-apens. Les trafiquants, hein, ils leur ont tendu un guet-apens aux agents de proximité. Ils les ont tailladés à coups de machette. Donc on les a amenés à l'hôpital, je me suis occupé de les faire soigner. Et après, quand ils sont guéris, ces mêmes trafiquants ont porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Et l'agent des eaux et forêts qui leur avait commandité cette opération a dit « Ah, moi, j'ai jamais commandité cela. » Comme lui, il est asservanté, on l'a muté simplement à notre poste où il va continuer ses merdes et ses enfants sont toujours en prison. Donc même quand vous défendez l'environnement, à partir du moment où vous dérangez des lobbies très puissants, des intérêts financiers très puissants, des mafieux très organisés, un gouvernement, hélas, qui est complice, à partir de là, c'est vous qui êtes en danger. Je suis désolé, mais ce sont aujourd'hui les défenseurs de l'environnement qui sont en danger. Alors je dis, il faut que rapidement on s'organise. Heureusement, la Constitution le permet, mais mon Dieu, ça signifie quoi? C'est écrit dans la Constitution, dans son article 25.1, 25.2, 25.3, que la surveillance et la protection et la restauration de l'environnement est du domaine public et du citoyen. Mais le citoyen, il est armé de quoi? Quand il défend l'environnement, il se retrouve en prison. Aujourd'hui, quand je vais dans les villages pour regarder le trafic, c'est des vingtaines de jeunes qui me poursuivent. Je suis obligé de fuir. Je suis obligé de m'armer de garde du corps parce qu'on dérange des intérêts trop importants.
Et des intérêts qui ont justement la capacité financière de mettre la main sur ces populations qui, de fait, volontairement ou non, se mettent à participer au trafic.
Oui, oui, hélas, cette population qui n'a pas connaissance des enjeux climatiques, parce que de toute façon, l'ONU le dit bien, en 2050, si on ne change pas les données de la gestion des ressources, c'est 60 millions de réfugiés climatiques qui quitteront l'Afrique, parce qu'ils n'ont plus accès à la ressource. Donc ces populations qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le savoir, qui ne savent pas trop où ils vont, qui sont pour la plupart du temps démunis, mais pas chômeurs. Attention, parce que moi, je ne comprends pas. C'est des gens qui sont soit éleveurs, soit agriculteurs, soit ils sont dans la cueillette, soit dans l'exploitation des ressources de la forêt. Donc, ils vivent de cette forêt-là. Je ne comprends pas qu'ils acceptent un gain facile en coupant le bois. Et c'est de plus en plus de gens qui s'engagent là-dedans. Parce que, poussés par les corrupteurs, poussés par les mafias, poussés par les exploitants véreux à couper, ils coupent de jour, ils coupent de nuit, ils coupent le matin, ils coupent le soir. C'est tout le temps. Pendant que je vous parle, c'est peut-être 200 arbres qui sont tombés.
Et cette zone où il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste, c'est une sorte d'autoroute de sortie d'arbres par tous les moyens de transport possibles vers la Gambie.
Alors le Medina Yorofula est un département très grand, hélas, où il n'y a même pas un kilomètre de route. Il n'y a pas de poste des eaux et forêts, il n'y a pas de poste de gendarmerie, il n'y a pas grand-chose dans le Medina Yorofula. Il y a quelques pistes, il y a beaucoup de trafiquants et il y a surtout des autoroutes qui mènent vers la Gambie où passent des centaines de charrettes par jour. Et c'est rigolo parce que quand ils passent avec du bois, on ne les arrête pas. Mais quand ils reviennent avec de la marchandise de pacotille, parfois ils tombent sur des douaniers pour arrêter le trafic. Mais arrêter le trafic du sucre, arrêter le trafic des tomates, pas arrêter le trafic du bois. Et il faudrait qu'il y ait des unités mobiles parce que je reste convaincu qu'avec 3 unités mobiles, 3 pick-up, des gens déterminés, autorisés à faire cela, qu'on fait cesser ce trafic en 3 mois.
Merci Haïdar El Ali.
C'est moi.
Et merci à Guillaume Thibault pour cette interview. Laurence Caramel, je rappelle que vous êtes journaliste au Monde Afrique. Vous êtes allé constater ce trafic donc avec Haïdar El Ali dans le département du Medina Yorofula. Haïdar vient de dire qu'il suffirait seulement de 3 pick-up pour tout arrêter.
C'est un trafic assez artisanal lorsqu'on y assiste. Il s'agit de charrettes tirées par des ânes, au mieux des chevaux, qui transportent des troncs. Ce sont des hommes, des jeunes hommes, pas armés. Enfin oui, ça semble effectivement assez facile à arrêter si la gendarmerie était sur place. Or, la particularité de ce département de Casamance, qui est un département des plus pauvres de la province, c'est qu'il n'y a ni présence des agents des eaux et forêts, ni présence des gendarmes. C'est une zone où, effectivement, on peut trafiquer tranquillement.
Alors, vous avez interrogé les autorités sénégalaises. Vous êtes allé au ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que l'on vous a dit ?
Alors, les autorités sénégalaises sont un petit peu embarrassées, puisque il y a... le Sénégal a porté l'affaire devant la CITES, c'est-à-dire la Convention internationale, qui est chargée de réglementer le commerce des espèces en voie d'extinction, dont le bois, mais c'est aussi le cas des éléphants. Évidemment, le gouvernement sénégalais me dit que dans la mesure où la Gambie assure qu'elle lutte elle-même contre le trafic de bois de veine, elle ne peut pas interpeller directement les Gambiens.
Et alors les autorités gambiennes, que disent-elles ?
Ben, les autorités gambiennes disent qu'il n'y a aucun trafic de bois en Gambie et que le bois sénégalais qui arrive en Gambie arrive avec des papiers sénégalais, donc tout à fait légalement. Ce qui est impossible puisque l'exportation du bois de veine est interdite par la loi au Sénégal depuis 1998. C'est une espèce protégée.
Et pourtant, vous êtes fait passer pour une femme d'affaires et vous avez vu que c'était très facile d'exporter ce bois.
Il est très facile d'aller aux alentours de Banjul, dans la banlieue de Serekunda, qui est le centre économique de ce tout petit pays. Et il y a des négociants en bois qui vous propose du bois sénégalais, donc du bois de veine, et qui vous donne un peu le mode d'emploi pour pouvoir exporter ce bois en toute tranquillité pour quelques destinations que vous souhaitiez, que ce soit la Chine, bien sûr. L'Europe, ça semblerait peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas pour la Chine, qui est la principale destination de ce bois, ça ne semble poser aucun problème.
Alors c'est là le cœur du problème, hein, parce que ce qui rend juteux ce trafic, c'est la demande chinoise, puisque ce bois de veine, il sert à fabriquer les meubles pour la classe moyenne, qui est de plus en plus nombreuse en Chine.
Alors ce bois de veine, il appartient à une catégorie de bois qu'on appelle les bois rouges, le bois de rose, qui est effectivement une espèce très prisée par les classes moyennes chinoises. Qui veulent s'acheter des meubles de luxe. Et comme cette classe moyenne chinoise grossit, la demande est de plus en plus forte. Donc c'est un trafic qui a à l'origine commencé en Asie et puis qui petit à petit se déplace, au cours des 5 dernières années, a complètement basculé sur l'Afrique, puisque en Asie, non seulement la ressource se tarit, et puis il y a des réglementations quand même qui se durcissent.
Alors, en Afrique de l'Ouest, c'est particulièrement dramatique puisque le bois de veine est un arbre de savane. Donc là, on n'est pas du tout dans le contexte de l'Afrique centrale où il y a des forêts, les magnifiques forêts du bassin du Congo. Là, on est sur une zone où l'arbre est rare.
Oui, la différence, effectivement, avec les trafics, le prélèvement de la ressource que l'on peut observer en Afrique centrale dans des forêts humides et denses est totalement différente. Là, c'est spectaculaire. Lorsqu'il n'y a plus de bois de veine, il n'y a plus rien du tout. Or, le bois de veine, c'est un arbre qui est très important dans l'économie, cette économie pastorale de la savane. À la saison sèche, les troupeaux se nourrissent des feuilles du bois de veine. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux où à la fois on coupe le bois de veine pour s'acheter du bétail et puis petit à petit, on a de moins en moins d'arbres pour nourrir ce bétail.
Et quand il n'y a plus d'arbres, la terre peut bouger parce qu'il n'y a plus de racines. Et donc, c'est là où on entendait Haïdar El Ali nous dire ce trafic va créer du désert au Sénégal. Le désert, ça entraîne des déplacements de population. C'est un cercle vicieux.
Exactement. Le désert entraîne la migration et c'est ce qu'on assiste dans ce département de Casamance où les choses vont très très vite. Et Haïdar dit que d'ici 2 ans, il n'y aura plus d'arbres. En tout cas, on atteindra un seuil critique. Je ne sais pas si c'est réellement 2 ans, mais les choses vont très très vite.
Merci beaucoup, Laurence Caramel, d'être venue témoigner suite à votre reportage dans cette région de la Casamance au Sénégal et sur ce trafic grandissant. On sera évidemment vigilant, non, c'est pas du vent, sur la suite de cette affaire. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Demain, nous recevrons le photographe Franck Vogel qui utilise son appareil pour témoigner de la dégradation des grands fleuves du monde et la microbiologiste Purificación López García, spécialiste des environnements extrêmes, qui viendra nous parler du site hydrothermal de Dalol au nord de l'Éthiopie, un dôme de sel boursouflé de geysers, de sources chaudes, de lacs acides, de concrétions soufrées bordant des vasques d'un vert fluorescent exploré pour la première fois par une équipe scientifique pluridisciplinaire. Mais Dalol est aujourd'hui menacé par l'exploitation de la potasse. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.
Des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.